Radio Okapi.
À une, ce bilan des bombardements des drones du M23 et ses alliés hier au village Moulima dans Fizi au sud Kivu. Au moins 18 morts et plusieurs blessés dans des déplacés, des enfants et des humanitaires. Les combats en cours ont encore jeté sur les routes de nombreux ménages. Rien ne va dans les hôpitaux publics. La prise en charge des malades se complique de plus en plus. À la base, la grève déclenchée par différents syndicats de médecins. Ils réclament la prise en compte de leurs revendications par le gouvernement. Nous ferons le point au centre hospitalier universitaire Renaissance, ex-Mama et moi à Kinshasa. Nous serons aussi au Kasaï central. Comme invité, le coordonnateur provincial de la MES pour la Mutuelle de Santé des enseignants de l'EPSP au Maniema, Placide Compagnie Kalambay, nous parle du début effectif de la prise en charge médicale des enseignants de Kindu par cette mutuelle. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonjour. Au moins 17 morts et de nombreux blessés. Bilan provisoire des bombardements des drones du M23 et ses alliés hier matin au village Moulima, des chiffres donnés par l'administrateur du territoire de Fizi. La même source atteste que ces attaques sont la conséquence des combats intenses signalés depuis jeudi entre les FARDC et les rebelles dans cette partie du sud Kivu. L'administrateur du territoire de Fizi déplore par ailleurs la violation de l'espace aérien de la RDC par l'armée rwandaise. Sami Badibanga décrit la situation. Situation difficile sur place et condamne. Il est au micro de Ronelli Tibonera.
On dénombre des femmes, hommes, enfants, bétail, des infrastructures sanitaires et infrastructures scolaires détruites et plusieurs enfants qui assistaient à leur proclamation dans leurs écoles tués dans le village Moulima, Kangouli et ses environs. Les humanitaires qui assistaient les déplacés internes dans les moyens et plateaux de Fizi, certains sont blessés. Et les déplacés internes tués plient des 18 morts parmi les déplacés internes. Par ailleurs, l'on signale les mouvements de déplacement de la population vers Fizi Centre, Baraka, Kananda, Mukera, Kichula et Lumanya, sans protection. Les territoires de Fizi condamnent avec la dernière énergie les violations répétées du territoire national par des avions rwandais.
Sami Badibanga, administrateur de Fizi. Notez par ailleurs que toujours hier vendredi, les affrontements similaires ont opposé les FARDC appuyés par les Wazalendo, rebelles du 1-23 vers Kaziba, dans les hauts plateaux de Mubuga, Kange et Namubula. Selon des sources locales, ces combats sont également à l'origine de nouvelles tensions dans la région. Nous restons ensuite qui vous pour signaler la dégradation de la situation humanitaire à Calais. C'est la nouvelle société civile de ce territoire qui le dévoile. Son président attribue cette crise aux affrontements survenus depuis le week-end dernier au village Katasomwa, Bishaka et Ziralo, également à Lumbishi et Masisi, combat opposant des Wazalendo aux rebelles du M23. Benjamin Muganzi indique encore que plus de 3000 ménages nouvellement déplacés ont été identifiés dans des localités comme Nyabibwe, Mukwija et Mouéha. Il révèle que ces familles ont tout abandonné dans leur village d'origine. Elles se retrouvent donc actuellement sans aucune assistance. Benjamin Mungazi nous en dit un peu plus sur les conditions difficiles de ces déplacés et leurs besoins. Il est joint par Ronelli Tibonera.
Les déplacés de la guerre vivent une vie difficile dans les villages où ils se trouvent, tels que dans les villages de Mukwija et Kinezira où nous avons 982 ménages, dans les villages de Ruhunde 351 ménages, dans les villages de Mouéha 256 ménages, dans les villages de Nyabibwe 995 ménages et dans les villages de Bujuki 198 ménages. Aux organisations gouvernementales et non gouvernementales, aux personnes de bonne volonté tous de s'impliquer, venir en aide de se déplacer car ils n'ont rien sur eux pour s'en servir pour cette période difficile et qui demande plus d'assistance et de vivre et non vivre tels que de la nourriture, les objets de la maison de cuisine, bâches, médicaments, en mettant l'accessibilité de l'argent pour les permettre d'améliorer leurs conditions de vie et surtout chez les femmes et les enfants. Nous demandons aux partenaires lors d'identification de passer porte à porte sans discrimination de ceux qui sont dans des chambrettes pour éviter de créer des conflits lors des distributions dans des familles d'accueil et comme ils sont tous en besoin.
Dans l'autre Kivu, le Nord, une mutinerie a éclaté hier vendredi à la prison urbaine de Kangwayi à Beni. À la base, les détenus militaires réclament le paiement de leurs soldes selon des sources pénitentiaires. Ces militaires affirment avoir le droit de percevoir leurs soldes tant qu'ils ne sont pas encore condamnés. En tout cas, la tension était encore vive dans cet établissement pénitentiaire jusqu'à hier en début d'après-midi. Jusque-là, aucun bilan officiel n'est encore disponible. Martial Papimoukeba nous relate les faits.
La mutinerie a éclaté vers 11h20 heure locale. Selon des sources pénitentiaires, plusieurs détenus militaires des FARDC qui réclameraient les paiements de leurs soldes sont montés sur les toits de la prison pour manifester leur mécontentement. Les militaires chargés de la garde et de la prison ont effectué des tirs de sommation avant l'arrivée des renforts des FARDC et de la police pour rétablir l'ordre. Selon les mêmes sources, les mutins auraient incendié des matelas des pavillons de détention et vandalisé les systèmes de vidéos surveillance ainsi que des bureaux de l'administration pénitentiaire. Ce dispositif, installé par la MONUSCO il y a un an, avait été renforcé il y a un mois par une dizaine de caméras. Les autorités sécuritaires et judiciaires de Beni se sont rendues sur place pour évaluer la situation. En fait d'après-midi, aucun bilan précis n'était encore disponible, l'accès à l'intérieur de la prison restant limité selon nos sources. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore obtenu la réaction des autorités militaires et pénitentiaires. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la grève des blouses blanches en cours dans plusieurs hôpitaux publics de la RDC. À Kinshasa, par exemple, les établissements de santé sont presque déserts, cas du centre hospitalier universitaire Renaissance, ex-Mamayemo. Ici, médecins, infirmiers et autres administratifs sont presque invisibles. Les rares présences sur place restent inactives, mettant en difficulté les rares infirmiers qui travaillent. Les patients déjà internés, très inquiets, se disent abandonnés à leur triste sort, sans bénéficier de soins. De nouveaux malades qui arrivent de l'extérieur sont eux carrément renvoyé à la porte. Radio Okapi s'est rendu sur place pour constater la situation. Ce reportage est signé Blaise Ndongala.
À l'entrée principale de l'ex-Mamayemo, le climat est maussade. Il n'y a ni engouement, ni effervescence comme d'habitude. Cette atmosphère traduit déjà un malaise dans cet établissement hospitalier public où les médecins ont cessé le travail pour réclamer l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Un patient rencontré sur place indique ne pas avoir bénéficié des soins depuis plusieurs jours et affirme même son intention de quitter ses lieux pour se rendre dans une structure privée.
Comme les médecins ne sont pas là, ça va vraiment à pas de torture. Et dans notre temps, comme la facture ne fait que gonfler, je suis obligé de quitter l'hôpital et rentrer. Les infirmières passent, mais les infirmières ne font qu'exécuter ce que les médecins leur demandent. Il y a eu des journées, par exemple, comme vendredi et samedi, où je suis resté presque inerte, rien faire, et il n'y avait presque pas de traitement.
Dans de nombreux cas, ce sont les infirmiers qui tentent d'assurer un service limité, mais leurs compétences ne suffisent pas à remplacer les diagnostics et les suivis des médecins pour les cas graves. Entre-temps, les médecins des différents syndicats, notamment des Silimed, durcissent le ton en réclamant les paiements d'arriérés allant jusqu'à 6 mois, dénoncent le non-respect des engagements du gouvernement et exigent des mesures liées à la mécanisation ainsi qu'à l'alignement de la prime des risques.
Et c'est presque le même tableau sombre du côté du Kasaï central. Des médecins sont quasi invisibles dans les hôpitaux publics. Cela suite évidemment à la grève déclenchée depuis jeudi par les médecins membres du syndicat des médecins du Congo. Ces blouses blanches ont carrément cessé le travail. Et là encore, des consultations sont suspendues. Des patients sont orientés vers d'autres structures médicales. Nous faisons le point sur place avec André Katendenga Lamouloumé.
Les médecins du CIMECO au Kasaï central ont déserté les hôpitaux et les centres de santé depuis jeudi. À Kananga, les conséquences sont déjà visibles. Dans plusieurs structures sanitaires, des patients attendent pendant des heures. Certains lassés finissent par rebrousser chemin. Ceux qui sont internés ne reçoivent pas tous les soins nécessaires. Les infirmiers prennent en charge les cas les moins compliqués. Mais lorsque la situation devient difficile, ils ne savent quoi faire. Jusque-là, le gouvernement n'a toujours pas répondu aux revendications du syndicat. Le secrétaire exécutif provincial d'intérim du CIMECO, Dr Nicolas Chitebois, prévient que la grève se poursuivra jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Une situation qui pénalise avant tout les patients, étant donné que le médecin du syndicat national de médecins, SINAMED, était déjà en grève depuis plus d'une semaine. Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Okapi.
Un retour sur le séjour du président sud-africain à Kinshasa au cours de la visite de travail de Cyril Ramaphosa et sa suite jeudi à l'Institut national de recherche biomédicale INRB. Le président congolais Félix Tshisekedi est revenu sur la situation des citoyens étrangers sur le sol sud-africain devant des partenaires et autres personnalités tant nationales qu'internationales. Le président congolais a rappelé le gouvernement sud-africain à la sagesse pour la valorisation de la solidarité africaine, cela afin qu'une issue heureuse et apaisée ainsi que respectueuse des droits fondamentaux puissent être trouvés. Je vais Félix Tshisekedi dans cet extrait que nous propose Benjamin Moudoumbi.
Nous avons évoqué avec toute la délicatesse requise la situation de certains ressortissants africains vivant en situation irrégulière sur le territoire sud-africain, ainsi que les tensions que cette question peut parfois susciter. Nous comprenons pleinement que chaque État a le droit souverain d'organiser, dans le respect de ses lois, la gestion de son territoire, de ses frontières et de sa politique migratoire. Mais nous demeurons convaincus que ces questions doivent être abordées avec humanité, responsabilité, retenue et dans le respect de la dignité de toutes les personnes concernées. À cet égard, nous faisons confiance à la sagesse des autorités sud-africaines pour privilégier une approche plus équilibrée, conforme aux valeurs de solidarité africaine, afin qu'une issue heureuse, apaisée et respectueuse des droits fondamentaux puisse être trouvée. Monsieur le Président, mon cher frère, votre présence aujourd'hui à Kinshasa illustre l'excellence des relations entre nos deux pays et notre volonté commune de bâtir une Afrique plus solidaire, plus résiliente et plus prospère. Et
pour sa part, le gouvernement sud-africain, à travers le président Cyril Ramaphosa, a déclaré rester ferme et dit avoir le devoir de respecter le droit de toutes les personnes sur le continent. Il soutient aussi qu'il a la tâche de protéger toutes les personnes qui vivent sur son sol, qu'elles aient des documents requis ou non. Le poisson se fait rare du côté de la commune de Maluku ici à Kinshasa, un coin pourtant très prisé par les amateurs de cette chair. Les pêcheurs du port Moulélé dans cette commune disent exercer leur métier dans des conditions de plus en plus difficiles, cela alors qu'ils contribuent chaque jour à l'approvisionnement de la capitale en poisson. Ils dénoncent l'absence d'un véritable port de pêche, le manque d'équipement moderne et l'arrêt de l'appui qu'ils recevaient autrefois du pouvoir public. À cela s'ajoute un autre défi majeur, l'absence des moyens de secours en cas de noyade. Devant cette en réalité, ils appellent les autorités ainsi que les partenaires à soutenir davantage le secteur de la pêche artisanale. Et la Chimbalou nous en parle.
Au port Moulélé, dans la commune de Maluku, les pêcheurs affirment se sentir oubliés malgré les rôles qu'ils jouent dans l'approvisionnement des Kinshasa en poissons. Le vice-président chargé de l'administration des pêcheurs de ces sites, Fiston Mandungu, regrette l'absence d'un véritable port de pêche et d'un accompagnement adapté.
Nous sommes considérés mais pas motivés. Ici à Maluku, il n'y a aucun port de pêche. Nous avons aussi besoin de partenaires. Nous faisons de la pêche, mais nous ne nous retrouvons pas.
Il dénonce également la fin des appuis matériels autrefois accordés aux pêcheurs. Pour eux, il y a encore 2 ans, le gouvernement distribuait des outils de travail chaque 24 juin. Chaque 24 juin, on recevait quelques outils de travail du gouvernement. Mais actuellement, on ne reçoit plus rien. Parmi les anciens de cette communauté figure Atiloswa Nabotomoito. Après plusieurs décennies de travail, il raconte avoir perdu sa pirogue, volée en Selengamazo, un coup dur qui a bouleversé son activité.
C'est moi le premier pêcheur ici. C'est moi qui a commencé jeter le filet ici dans l'eau jusqu'à Kwamutu. On a volé ma pirogue vers Selengamazo.
Enfin, la sécurité sur les fleuves reste une préoccupation majeure. En cas d'accident, les opérations de sauvetage se font encore à la pagaille, avec le risque d'arriver trop tard pour sauver une vie.
Et puis cet événement inédit sur la plage de Moanda au Congo central, une baleine d'environ 10 à 12 mètres de long et pesant entre 8 et 12 tonnes a échoué sur le littoral de la côte atlantique. C'est la première fois qu'une baleine échoue dans cette zone marquée par la pêche artisanale et le trafic côtier. Très vite, autorités, habitants et agents de l'Institut congolais pour la conservation de la nature se sont mobilisés pour tenter de sauver l'animal, mais sans succès, hélas. Élise Kavira nous donne plus de détails.
La découverte de ce mammifère marin a suscité étonnement et vive émotion auprès des riverains de Moanda. Selon plusieurs témoins, l'animal était encore vivant au moment de sa découverte. Cependant, le chef de parc marin des mangroves, le directeur provincial de l'ICCN Congo Central, Dedieu Biayombe, pense que rien n'aurait pu être fait pour sauver l'animal.
Quand quand la baleine a échoué, nous sommes rendus compte que c'était juste le dernier signe que la baleine avait manifesté, mais la baleine n'était plus en vie, il était vraiment mourant.
Sur place, certains habitants curieux disaient avoir aperçu des traces de balles sur la baleine. À ce sujet, le directeur des dieux Biayombe donne plus d'éclaircissements.
Ceux qui étaient là, ils ont observé qu'il y avait même des trous. Ils croyaient que c'était des trous de coups de balles. Ce sont des parasites qui pénètrent sur la peau des baleines, qui peuvent cacher des zoonoses qui sont à la base de beaucoup de maladies.
Quant aux précautions sanitaires, le directeur de l'ICCN met en garde toute personne ayant été en contact avec l'animal et rassure que toutes les dispositions sont prises afin que l'animal ne soit pas consommé par la population.
C'est une espèce totalement protégée de la CITES. Nous ne sommes pas autorisés de partager la viande et de consommer. Tous ceux qui ont touché, ils doivent essayer de passer dans les hôpitaux pour faire des tests. On ne sait pas quelle maladie ça peut contaminer jusque-là.
Cet échouage soulève également des questions sur les moyens disponibles pour intervenir rapidement en cas de situation d'urgence sur la côte. Matadi. Elis Kavira, Radio Kapi.
C'est la World Wildlife Fund, WWF, une organisation internationale qui œuvre pour la protection de la nature et la conservation des espèces. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine des échouages des baleines. Parmi eux figurent les collisions avec les navires, les captures accidentelles dans des filets de pêche, des bruits sous-marins, la pollution des eaux et le changement climatique.
Actualité internationale.
Iran, les funérailles officielles de l'ayatollah Ali Khamenei ont démarré aujourd'hui, samedi à Téhéran. C'est pour 6 jours. Les autorités y attendent entre 15 et 20 millions de personnes, parmi lesquelles des représentants d'environ 30 pays. Il sera inhumé le jeudi prochain, le 9 juillet, au sanctuaire de l'imam Reza, dans la ville de Rashhad, son lieu de naissance. Pour rappel, le guide suprême iranien a été tué dans une attaque américano-iranienne. C'était le 28 février dernier. Il avait 86 ans.
L'invité.
Nous recevons le coordonnateur provincial de la MES pour la mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP au Maniema. Placide Compagnie Kalambay nous parle du début effectif de la prise en charge médicale des enseignants par cette mutuelle. Ils sont chrétiens depuis Kindou avec Laurence Kizalunga.
Compagnie Kalambay Placide, bonjour.
Bonjour madame.
MESP débute la prise en charge effective des enseignants de la ville de Kindou aujourd'hui. Dites-nous comment est le processus.
Merci pour la question. Oui, nous avons commencé la prise en lancement officiel de la prise en charge des enseignants aujourd'hui. Le processus est que tous ceux qui ont été identifiés, sont fait identifier, pourront passer dans nos bâtiments dès ce lundi pour le retrait de leur carte, la signature de la charte et ils peuvent déjà se rendre dans le centre de santé qu'ils ont choisi pour eux, pour leur famille, pour avoir accès aux soins lorsqu'ils se sont malades. Pour qu'un enseignant bénéficie de soins de santé, il doit d'abord être identifié. En ce moment-là, on va lui octroyer sa carte de soins. C'est au moins dans sa carte de soins qu'il pourra se rendre aux structures sanitaires pour le soin de santé.
Alors, certains enseignants ont des inquiétudes par rapport à la prise en charge de leurs dépendants, car la carte est individuelle, rien que pour l'enseignant. Et si l'enseignant voyager, qui est sa famille ou son enfant ou sa femme est tombée malade derrière lui, comment est-ce qu'il va faire pour bénéficier des soins?
Merci pour la question. Nous l'avons dit lors du début de la phase d'identification que nous commençons d'abord avec l'identification des enseignants ou enseignantes, les titulaires. Souffrons un peu de commencer comme cela pour nous permettre de bien avancer. Nous sommes au début, nous ne pourrons pas commencer à embrasser plusieurs branches directement. Nous commençons par les titulaires. Nous avons commencé l'identification des titulaires. Nous avons enregistré les personnes à charge. Nous avons lancé la prise en charge officielle des titulaires et nous allons procéder aussi à l'identification des personnes à charge et puis passer à la prise en charge de toutes les dépendants des enseignants.
Qu'en est-il de l'approvisionnement en médicaments dans les structures de santé? Est-ce que vous l'avez fait? Parce que dans la plupart des structures sanitaires ici, il se pose un peu les problèmes de médicaments que les enseignants affichent déjà leurs craintes.
Oui, par rapport à cette préoccupation, la MESP, avec l'expérience qu'elle a, elle a déjà prévu une brèche, un préfinancement en pharmacie dans cette structure. mesures pour que les enseignants soient servis convenablement. Donc, je lance un appel à tous les enseignants de ne pas s'inquiéter. Lorsqu'ils vont arriver dans le centre de santé, ils ne vont rien payer, moyennant seulement leur carte, et bénéficieront d'une prise en charge holistique.
Pour vous rassurer de la prise en charge correcte des enseignants, est-ce que vous avez placé l'un de vous dans les structures de santé pour les suivi?
Oui, avec la politique de la mutuelle, la MESP, elle a prévu un représentant ou un délégué mutualiste qui a reçu une formation paramédicale, où je peux appeler un point focal, qui sera là en permanence dans la structure. Lorsque l'enseignant arrive dans la structure dans le centre de santé auquel il est affecté, il va chercher le bureau du délégué. Et lorsqu'il va rencontrer le délégué, il présentera sa carte d'accès aux soins et le délégué va l'orienter pour la prise en charge jusqu'à la fin.
Et l'opération que vous débutez aujourd'hui au chef-lieu de la province, ça sera quand dans le territoire?
Oui, nous avons commencé la prise en charge ici dans la ville de Kindu et dans un futur très rapproché, nous arriverons à ces enseignants qui sont dans le territoire pour commencer avec une identification mobile, ensuite passer à la phase de la prise en charge. Oui, je fais un appel aux enseignants, d'abord de ceux de Kindu, pour ceux qui sont déjà identifiés, de passer ce lundi à notre bâtiment de la MESP pour le retrait de leur carte et la signature de la charte pour leur donner accès aux soins. Pour ceux qui sont encore en train de ralentir le pas pour l'identification, nous vous appelons, venez vous faire identifier afin d'avoir accès aux soins de santé.
Et quelle garantie pour ceux-là qui sont dans les territoires? Ils ont aussi les mêmes droits parce qu'ils aussi cotisent pour la MESP.
Et pour ceux qui sont à l'intérieur dans les territoires, nous vous rassurons que nous viendrons d'ici là. Parce que même s'il s'avérait qu'un enseignant de territoire s'est retrouvé à Kindu pour une raison quelconque, et s'il a un problème de santé, la MESP le prendra à charge sans problème.
Compagnie Kalambay Placide. Je vous remercie.
Je vous en prie, madame.
Il s'agit du coordonnateur provincial de la Mutuelle de Santé des Enseignants de l'EPSP au Maniema. Fin de ce journal, Babel Pongo-Massimango vous l'a présenté avec l'apport de Alain Goy. Côté technique, Lévin Mbunga à la supervision. À vous qui nous avez suivis, merci de votre attention. Bon week-end.